Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Pierre. De Pierre, et nous lirons au chapitre 3, les versets 1 à 10. De Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dans ce troisième chapitre, l'apôtre Pierre revient sur le thème qu'il avait déjà abordé au chapitre premier, où dans ce chapitre premier, rappelez-vous, il nous a parlé du fait que Dieu nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses et que, en vivant par elles, en les gardant devant nos yeux, en les gardant toujours en mémoire, toujours présentes à notre esprit, nous apprenions à fuir la corruption qui existe dans le monde pour vivre dans la justice. Ces promesses nous parlent, nous avons vu, de la gloire de Christ, et en particulier de cette gloire qui sera visible aux yeux de tous lorsque Jésus-Christ reviendra pour prendre les siens avec lui et pour juger le monde. Cette gloire qui a été révélée en avant-première, si l'on peut dire, à Pierre, à Jacques et Jean, lorsqu'ils étaient avec le Seigneur sur le mont de la Transfiguration. Cet événement, comme l'apôtre le dit, qui certifie en quelque sorte les promesses ou qui appuie les promesses contenues dans la parole de Dieu et qui montre que cette parole est véritable, elle est certaine, Dieu accomplit ce qu'il a promis. Et ces promesses, et en particulier la promesse du retour de Christ dans la gloire, doit être comme une lumière sur nos pas et nous exhorter, nous encourager à vivre dans la lumière, à tenir cette lumière haute dans un monde de ténèbres. On retrouve cela un peu plus loin dans ce chapitre 3, dans les versets 13 et 14, où on a ce lien où l'apôtre écrit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Mais si cette promesse du retour de Christ dans la gloire, si cette promesse de la nouvelle terre et de nouveaux cieux, et la nouvelle terre où la justice habitera, doit nous remplir d'espérance, doit nous remplir de ce désir de vivre dans la sainteté. Nous devons aussi croire que cela est vraiment réel, cela va vraiment arriver. Il ne faut pas que ce soit simplement une notion que, oui, voilà, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant, mais que c'est réel, c'est une réalité. Cela va arriver. Et Pierre, justement, écrit à des églises qui ont été infiltrées par des faux docteurs, comme il l'a écrit au chapitre 2, nous l'avons vu les fois précédentes. Chapitre 2, verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Il y a eu et il y aura des faux docteurs qui croient, ou qui ne croient pas plutôt, que le retour de Christ est une réalité. Peut-être était-il comme ceux que mentionne l'apôtre Paul dans la deuxième lettre à Timothée. Peut-être était-il comme Hyménée et Philette, qui en 2 Timothée 2, versets 17 et 18, Paul écrit ceci, de ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ils enseignent que la vérité, la résurrection des croyants était déjà arrivée, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de résurrection corporelle, mais simplement une résurrection spirituelle. Encore une fois, ils tordaient le sens des Écritures, comme Pierre va le souligner à la fin de ce chapitre 3, où il écrit au verset 16, c'est ce que Paul fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ils tordaient par exemple le sens de ce que Paul dit en Colossiens chapitre 2, verset 12, où Paul écrit « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. » Et ces personnes disaient par exemple que puisque nous sommes ressuscités comme Christ et avec Christ, à ce moment-là, Christ n'est pas ressuscité vraiment corporellement, mais seulement spirituellement. Et donc, cette idée d'un retour de Christ dans un corps et dans la gloire, plein de puissance, n'est finalement qu'un mythe. Et ces personnes, en rejetant le retour de Christ, ces faux docteurs, en rejetant un retour corporel de Christ, rejettent aussi, en fait, la réalité du jugement. Finalement, si Christ ne revient pas, il n'y aura pas de jugement. Et donc, qu'importe la manière dont on se conduit sur la terre et ce qui leur donne à ce moment-là la base morale, on pourrait presque dire la base doctrinale pour leur dérèglement que nous avons considéré la dernière fois au chapitre 2. Une immoralité, puisque de toute façon, qu'importe, on peut faire ce que l'on veut dans ce corps, puisque l'homme doit simplement montrer sa liberté spirituelle en se libérant des restrictions morales. Mais bien entendu, l'apôtre Pierre condamne cela et il a attaqué déjà ces faux docteurs et leur enseignement. Quand il écrit au chapitre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçu que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres cieux. » Jésus-Christ a certifié qu'il allait revenir dans son corps, dans la gloire, en révélant cette gloire à ses apôtres, à Pierre, Jacques et Jean, lors de la transfiguration. Et la parole prophétique qui annonce le retour de Christ et la gloire de Christ est plus certaine encore. Et elle doit être cette lumière pour nous dans nos vies, dans notre pèlerinage sur terre. Et Pierre, donc, confronte au chapitre 3, il confronte à nouveau ces faux docteurs, ces faux enseignants. Et il dit, dans les premiers versets, qu'il veut que ses lecteurs se rappellent de ce qui a déjà été dit dans l'une et dans l'autre. Voici la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Il reprend, il dit cela. Il avait déjà dit cela, rappelez-vous, au chapitre 1er, verset 12 et suivant, quand il dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la foi présente. Mais je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et il revient là-dessus. Il revient sur la nécessité de se rappeler de ces choses, de se rappeler par exemple de cette prophétie de Malachie. Malachie 4, versets 1 et 2. « Car voici le jour vient. » Ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, mais il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Promesse de l'Éternel, du retour de Christ dans la gloire. Mais il y a aussi les avertissements. Il y a le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Et l'avertissement, est, par exemple, en Matthieu 24, ce que le Seigneur dit en Matthieu 24 et au verset 42, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le retour de Christ est une réalité et qui a été annoncée déjà dans l'Ancien Testament et qui était encore une fois répétée dans le Nouveau Testament. Il faut nous rappeler de ces choses, il faut que l'on garde ces choses en mémoire. Christ revient et il reviendra dans la gloire. Et il s'adresse dans les versets 3 à 4 à ces faux docteurs. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Mais même ces faux docteurs font partie des promesses, font partie de la parole prophétique. Dieu a annoncé que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec leur raillerie. Et leur présence montre que nous sommes dans les derniers temps qui ont bien sûr commencé avec la venue de Christ. Dans les derniers jours, Dieu a parlé par son Fils. C'est le langage de l'auteur aux Hébreux. Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes. Dans les derniers jours, Dieu a parlé par son Fils. Et dans ces derniers jours, il y a les moqueurs. Ils sont partie de la parole prophétique. Et au verset 4, Pierre leur laisse, en quelque sorte, déclarer leur thèse, et une thèse qui existe encore aujourd'hui. Des personnes qui utilisent cet argument pour dire que les lois de la nature sont constantes, elles ne changent pas, le soleil se lève, le soleil se couche, les saisons se suivent, ça dure depuis des siècles. Cet état des choses va continuer, va exister encore pour longtemps. Toute idée du retour de Christ qui interviendrait avec puissance, avec gloire, pour arrêter cela, pour juger le monde, tout cela, c'est impensable. Et Pierre va répondre de trois manières. Il va donner trois éléments dans sa réponse. Le premier élément, nous l'avons au verset 5 à 7. Pierre rappelle que Dieu a créé et Dieu soutient toutes choses par sa parole. La première chose là, que ces faux docteurs ignorent ou veulent ignorer, c'est que Dieu a créé le monde et que Dieu soutient ce monde par sa parole. Ce monde, la nature, n'est pas enfermée dans un programme. Si Dieu parle, la nature peut changer. La nature n'est pas une loi en elle-même. Les lois de la nature, ou ce qu'on appelle les lois de la nature, sont, on pourrait dire, les murmures infatigables de Dieu. Et si Dieu élève sa voix, cela devient un cataclysme. La deuxième chose que ces faux docteurs, ces faux enseignants ignorent et veulent ou ignorer, c'est que les choses n'ont pas continué comme elles étaient à l'origine. Ce n'est pas quelque chose de continu. Pierre raisonne comme il a raisonné au chapitre 2 au verset 5 et suivant, quand il parle du jugement de Dieu. Hein, quand il parle, il dit au verset 5 et suivant, il a dit « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » C'est le même raisonnement qu'il a ici au verset 5 du chapitre 3. Donc, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Dieu a parlé et qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Dieu a jugé le monde à l'époque de Noé en amenant ce que l'homme appellerait des dérèglements naturels, des catastrophes naturelles. Mais c'est Dieu qui est intervenu. Et Pierre veut montrer à ses faux docteurs que c'est Dieu qui contrôle le cours de l'histoire, même par des faits de nature, de catastrophes naturelles. Il a changé le cours de l'histoire. Il a jugé le monde à l'époque de Noé en envoyant ce déluge, en condamnant cette génération. Et Pierre dit, il l'a fait avec Noé, au temps de Noé, il l'a fait par l'eau, mais il réserve le monde aujourd'hui pour le feu. Et ce sera une autre intervention de la part de Dieu. Dieu intervient par sa parole, il dit la chose et elle s'accomplit. Et il dirige le cours de l'histoire par ses actes, par sa parole. Ces faux docteurs veulent ignorer cela, ne veulent pas accepter cela, ne veulent pas croire que Dieu a créé toutes choses et qu'il gouverne par sa parole, qu'il est absolument tout-puissant sur toutes choses. La deuxième raison que l'apôtre Pierre donne, nous l'avons au verset 8, un jour, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Pierre répond à ces faux enseignants qui disent que Christ tarde à venir, il a tellement tardé que finalement on peut penser qu'il ne reviendra jamais. Mais il répond que Dieu, dans l'expérience de Dieu, le temps que nous ne connaissons son expérience n'est pas la même. La notion de temps, comme nous la connaissons, a été créée avec le monde. Dieu, lui, est en dehors du temps, dans ce sens qu'il ne change pas, il ne vieillit pas, il n'oublie pas, il voit toute l'histoire. Il sait le commencement de la création, il sait quelle va être la fin. Et il ne s'ennuie pas. Il ne s'ennuie pas. Il a le plaisir est en son Fils. En son Fils qui a obéi, qui a accompli le salut, qui est venu sur terre pour sauver un peuple, sauver son peuple, et qui va un jour revenir pour chercher son Église, chercher son épouse, et l'amener dans la gloire. Et si on peut prendre ce parallèle pour notre expérience, quand nous vivons quelque chose avec quelqu'un et qui nous donne de la joie, qui nous fait plaisir, on ne voit pas passer le temps. Le temps paraît trop court et on ne voit pas passer le temps. Et c'est une faible image, bien entendu, mais le Père prend plaisir dans le Fils. Et il a, c'est comme si le Fils était monté au ciel hier, mais le Père prend plaisir dans le Fils et il l'aime. D'un amour infini, d'un amour éternel. Mais cette notion de temps n'est pas un argument donc pour nier le retour de Christ. Christ revient. Et il revient dans la gloire. C'est une réalité merveilleuse, une réalité glorieuse, une réalité joyeuse pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Et Dieu fait toutes choses en son temps et pas en notre temps. Et le troisième argument que Pierre donne dans sa réponse, nous l'avons au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11 et au verset 25, écrit ceci, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Quand il parle de tous ici, il ne parle pas de tous numériquement, de tout être humain sur la surface de ce globe, mais il parle de tous ceux que le Père lui a donnés, comme il le dira en Jean 14, « Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Il s'agit de tous ceux qui sont appelés par Dieu, viendront. Et c'est un jour de patience. Ce délai, ce temps avant le retour de Christ est en fait un acte de patience, de miséricorde pour permettre au rassemblement de tout le troupeau de Christ. Dans Jean 10, verset 16, par exemple, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Versets 26 à 30. « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » et l'ironie, qui est en fait une tragédie, c'est que ces faux docteurs prennent la patience de Dieu avec l'opportunité de se repentir pour la retourner contre Dieu et pour dire, pour l'utiliser comme une soi-disant évidence que Christ ne reviendra pas. Mais ils oublient que Dieu accomplit tout ce qu'il a promis, mais qu'il est aussi un Dieu patient et qui use de miséricorde. Jésus-Christ revient. C'est une réalité. La parole l'atteste, la parole le confirme. Le délai est encore une opportunité. Une opportunité pour annoncer l'Évangile, une opportunité pour l'entendre, une opportunité pour se repentir, et pas une opportunité pour l'incrédulité, comme ces faux docteurs utilisent cela. Ce monde, même si l'on voit tout ce qui est dans ce monde, mais ce monde est quand même dirigé sous l'autorité de la parole de Dieu. Dieu peut et Dieu va faire venir le jugement sur l'humanité, comme il l'a fait au jour de Noé. Mais pour ceux qui croient au Fils de Dieu, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ce ne sera pas un jour triste, ce ne sera pas un jour malheureux. Mais au contraire, ce sera la gloire, ce sera l'honneur, ce sera l'immortalité. Ce sera entrer dans la présence pour être avec Christ et servir Dieu de manière parfaite, où il n'y aura plus larmes, plus de larmes, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus rien qui pourra nous empêcher de servir Dieu de manière parfaite et où nous le ferons avec joie. Attendons ce jour avec impatience, avec hâte. Désirons ce jour. Désirons ce jour où Christ nous prendra pour être avec lui. Et en attendant, vivons. Vivons dans l'attente, dans cette perspective de ce retour glorieux de Christ, et vivons pour sa gloire. Amen.